Merci tout d'abord pour l'invitation et ce colloque qui est extrêmement riche, comme toujours quand Alain organise quelque chose. Je ne suis pas sûr de pouvoir y contribuer de façon extrêmement utile puisque je ne suis pas juriste et je vais faire néanmoins quelques remarques critiques, provocatrices pour la fin d'après-midi, puis d'essayer de réfléchir à partir de ces remarques sur l'acteur syndical et comment est-ce qu'il pourrait être articulé aux pensées juridiques qui ont été développées ici. Pour moi, il me semble que le droit n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. Le droit ou les discussions sur les nouveaux droits vont créer des structures d'opportunités qui vont être saisies ou pas saisies par les acteurs. Donc ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est de savoir si le débat ici va être saisi par des acteurs, parce que sinon ça sera un débat académique extrêmement brillant, comme il a pu l'être pendant ces deux jours, mais qui ne sert à rien si on voit en termes de changement de société. Je ne donnerai qu'un seul exemple qui illustre bien le propos. On a les directives égalité hommes-femmes au niveau européen. Il y a 10 fois plus de cas qui viennent du Royaume-Uni que d'Allemagne, et il y a 3 fois plus de cas d'Allemands que de Français. Donc la même législation est structurée, est utilisée, est une structure d'opportunité pour des groupes de façon très très différente si on prend les trois grands pays. Et donc c'est ça qui me paraît important, et de savoir finalement comment le droit ou les nouveaux droits que vous voudriez acquérir peuvent s'articuler, étant donné qu'on a entendu par ailleurs qu'on a un État démembré ou démantelé. Donc on ne peut plus avoir l'espoir que les instruments classiques du droit, l'inspection du travail, vont jouer un quelconque rôle. Donc on doit vraiment, je pense, réfléchir plus avant dans les propositions futures, quelle pourrait être l'articulation entre les propositions juridiques et des acteurs réels qui pourront ou ne pourront pas les mettre en œuvre. Deuxième élément, c'est plus sur le débat précédent. D'abord, je pense qu'il faut éviter de dire qu'on va sauver la planète, parce que la planète n'a pas besoin d'être sauvée, elle sera sauvée. Ce qui est l'enjeu, c'est de savoir comment on va articuler notre civilisation sur la planète. C'est un peu différent que sauver la planète, qui a connu d'autres épisodes un peu complexes. Et je pense que si on pose cette question-là, c'est une erreur totale de penser que si les États et les grandes multinationales font quelque chose, on a résolu quoi que ce soit. On est devant un problème, un enjeu qui est beaucoup plus grand. On est dans un enjeu dans lequel il y a 2 dimensions, selon moi. Un enjeu de choix technologique, d'évolution technologique à court terme. Et là, j'y reviendrai, c'est la question de la régulation et l'innovation. Et le deuxième qui est un choix sociétal, c'est-à-dire qui va réfléchir nos modes de consommation et nos modes de production. Parce qu'il est évident que ce qu'on a pris comme mesure est... L'Union européenne se targue d'être en avance par rapport aux autres, c'est les mesures les plus faciles. Plus on va avancer, plus on va devoir réduire l'empreinte carbone, plus les mesures vont être difficiles. Toutes les mesures faciles ont déjà été prises, qui ne coûtent rien, qui ne font pas qu'on doit changer quelque chose, qu'on peut continuer, grosso modo, le même mode de vie. Donc je pense que cette question-là, si on pense que des États qui ont dit on va faire, on est d'accord pour 2 degrés, on s'est plié, on a sauvé quoi que ce soit, on n'a rien sauvé. On commence le débat. Et on doit articuler ça, évidemment, à une réflexion avec des acteurs, et des acteurs sur une réflexion qui, me semble, doit être radicalement différente, dans laquelle on n'a pas, sur les responsabilités ici, on n'a pas, finalement, expérimenté comment est-ce qu'on doit engager 80% d'une population pour des changements. On sait comment on peut gagner une élection et la perdre, l'élection, mais on ne sait pas comment... On doit engager un mouvement qui doit se faire en même temps, et c'est ça une grande complexité, rapidement et sur un long terme. Ce n'est pas quelque chose, on a 2 enjeux, 5-10 ans d'accélération, mais en même temps un siècle de continuer à réduire des émissions. Et donc là, je pense qu'on est devant des changements qui sont bien plus importants que ce qui est dans les propositions, et qu'on est dans une phase de la globalisation qui est totalement différente pour moi que celle décrite. J'ai dit que j'allais être un peu provocateur. On est dans une phase de la globalisation où le salaire minimum chinois est supérieur à 7 États de l'Union européenne. Donc si on va continuer à croire que la Chine est l'atelier du monde et nous, nous sommes le cerveau, on se trompe complètement. On est là à des restructurations qui vont être beaucoup plus importantes que prévues ou qu'annoncées, du monde, des flux, des flux de marchandises, des flux de pétrole. Aujourd'hui, on a reçu l'information, les universités chinoises, dans le ranking international, dépassent les japonaises. Donc on est là dans un monde qui est en train de basculer. Je pense que sur la réflexion sur les responsabilités, on doit dépasser les deux points État et entreprise, et on doit se rendre compte qu'on est devant des changements bien plus importants et regarder le futur et pas regarder ce qui se passait il y a 20 ans. Alors je viens à ma troisième, qui est peut-être le plus provocateur. Je dirais, plus j'ai entendu les responsabilités des entreprises, plus je me suis senti friedmanien, d'une certaine façon. Je veux dire, c'est quoi cette entreprise globale qui va s'occuper de l'éducation des gens dans le village, qui va donner le bonheur de ses travailleurs, qui va avoir des objectifs? Je veux dire, on est pourquoi une entreprise totale qui maîtrise autant son interne, les travailleurs, que la situation externe? Est-ce que ce n'est pas plus facile d'avoir d'un côté une entreprise qui fait du profit et un État qui taxe et qui régule? Je pense qu'on a quand même une réflexion à avoir. Qu'est-ce qu'on demande à l'entreprise et qu'est-ce que va être cette entreprise du futur? S'occuper de tout. Si on a vu l'exemple de l'Inde, c'est très bien. On connaît l'opacité de façon dont les entreprises vont faire de la charité autour de leur usine. On a parlé hier, c'était très intéressant, sur Bill Gates. Est-ce que c'est ça notre image de l'entreprise? Microsoft avec Bill Gates qui ferait le bien pour le monde, qui remplace les États, qui a un budget santé qui est supérieur à l'aide au développement des États-Unis. Je pense qu'on a quand même à réfléchir sur quel est l'objectif des entreprises en général et jusqu'où on veut qu'ils aient des objectifs sociétaux qui sont en partie, qui relèvent de l'État. Je passe maintenant rapidement sur les syndicats et peut-être une réflexion sur deux niveaux, un niveau spatial et un niveau temporel. Un niveau spatial pour les propositions qui ont trait aux chaînes de valeur et la responsabilité du donneur d'ordre, donc dans l'espace, et une réflexion dans l'espace et une réflexion dans le temps sur le changement climatique. Alors, je vais commencer par une anecdote. Il y a le congrès de la CES qui va se dérouler dans quelques mois à la Mutualité, et on s'est trouvé devant un problème. Comment on traduisait « Social Europe for people » ? Ça pouvait être pour les gens. Pas terrible. Pour les personnes, peut-être. Pour les citoyens. Oui. Pour les travailleurs. Pour les travailleurs et leurs familles. Tout d'un coup, on s'est retrouvé devant une question très intéressante. C'est le syndicat défend qui ? Le défend s'occupe de qui ? C'est très différent si on dit on s'occupe des personnes, des citoyens, des travailleurs avec leurs familles. Et qu'est-ce qu'on dit que c'est un travailleur? Est-ce qu'un chômeur est un travailleur? Donc en Belgique, on a trouvé la solution. Le chômeur est un travailleur sans emploi. Donc on peut le mettre dans la catégorie travailleur. Est-ce qu'un pensionné est un travailleur? Est-ce qu'un indépendant est un travailleur? Et je veux dire, à partir de ça, mes revenus, la réflexion pour la suite, c'est dire, c'est si les syndicats doivent commencer à rentrer dans une dynamique de jouer dans les chaînes de valeur et d'avoir un rôle plus proactif, ce qui est évidemment mon propos, qui est-ce qu'ils défendent? Parce que finalement, s'ils défendent tout le monde, et c'était le débat, quelle est la différence entre un syndicat et une grosse ONG? Pas beaucoup. Il n'y a pas de spécificité. Ou un parti politique, pour être un parti politique. S'ils défendent trop peu de gens, est-ce que ce n'est pas simplement le défendeur des insiders? Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce débat se passe de façon assez forte en Allemagne, avec deux approches. Une approche IG Metall, qui est le syndicat va se concentrer sur l'entreprise, et défend les gens qui sont dans l'entreprise. Donc on va essayer d'améliorer tous les travailleurs. Il y a les travailleurs de l'entreprise. Et une réflexion assez différente de Verdi, qui s'occupe des services privés, qui dit, non, on va essayer de faire des alliances externes. Le syndicat doit être un mouvement social. Le syndicat doit jouer des pluralités d'espace. Donc, je veux dire, deux visions très, très, très différentes, mais qui sont évidemment importantes si on réfléchit quel va être le rôle des syndicats dans les chaînes de valeur. Autre débat qui est très intéressant en Allemagne pour le moment, c'est l'unité versus la liberté syndicale. Donc, l'unité, il y a une série de petits syndicats, docteurs, comme vous avez vu, ça fait toujours plaisir aux Français, il y a plein de grèves en Allemagne, donc il n'y a pas que la France qui est stigmatisée pour avoir des grèves. On a l'Allemagne qui fait des grèves, mais c'est surtout des petits syndicats corporatrices. Donc la question qui se pose au point de vue juridique, est-ce qu'ils peuvent faire la grève ? Et le Parlement a dit non. Il doit avoir une unité pour les trains, c'est le syndicat qui a le plus de représentants qui peut décider de la convention collective et de faire la grève. Sur quoi les syndicats ont répondu, non, on a un droit constitutionnel de faire la grève, dans les conditions de faire la grève, qui est notre liberté syndicale. Et là, c'est très intéressant parce qu'on va se retrouver aussi au niveau syndical en disant, est-ce qu'on a une unité ou une liberté qui va être en tension en matière de représentation. Alors, ça se passe comment, pour continuer avec les frontières, ça se passe aussi dans un monde, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des cultures syndicales différentes, qu'on devrait réfléchir pour articuler ça à des droits, dans un monde où les frontières, qui étaient des frontières finalement relativement classiques de la production, des secteurs, sont complètement en train de s'effriter avec les chaînes de valeur. C'est-à-dire où s'arrête la production d'une automobile. Il y avait des gens qui distribuaient des pièces, mais maintenant elles commencent à monter les pièces dans les camions. Donc, qui arrivent. Est-ce qu'ils font partie de l'usine? Est-ce qu'ils ne font pas partie de l'usine? Donc on arrive avec des conceptions syndicales différentes aussi, à des confrontations, ici c'est en Allemagne, mais qui sont générales sur qui est-ce qu'on défend finalement, qu'est-ce que est l'objectif, et qui est relié à ma question évidemment 3, c'est quoi l'entreprise? Comment est-ce qu'on considère l'entreprise? Est-ce que cette entreprise doit être cette communauté, qui pourrait être IG Metall, parfaite, ou c'est quelque chose de plus complexe, et c'est quelque chose de plus en tension? Et donc, on arrive finalement à un schéma assez simple. On a certains syndicats qui pensent qu'on défend les membres, il y en a d'autres qu'on défend tous les travailleurs, le troisième, la communauté. Il y en a certains qui sont plutôt internes, il y a certains qui sont plus externes, il y a certains qui s'occupent au niveau local, national et global. Donc, je pense que dans cette réflexion-ci, sur les restructurations syndicales qui sont en train de se passer, si on veut donner la moindre efficacité aux normes qui sont proposées, il est nécessaire de réfléchir avec les acteurs comment ces acteurs peuvent se servir des normes, étant donné que l'acteur syndical est quand même encore un acteur important, en tout cas en Europe. Alors, pour ne pas finir sur une note négative, je veux dire, ça permet aussi des innovations. Nous, on a fait un projet à l'Institut syndical où on a regardé comment, en fait, dans les comités d'entreprise européens, des entreprises qui étaient concernées par le drame de Rana Plaza, on pouvait mettre en place les éléments de l'accord. Comment, au niveau européen, les comités d'entreprise, qui n'avaient rien à voir normalement ça, puisqu'ils sont européens, pouvaient se saisir d'un objet international pour essayer d'avoir une certaine efficacité. C'est la première fois que des comités d'entreprise européens se saisissaient de quelque chose au niveau global et essayaient d'avoir une influence sur leur direction respective. Alors, je vais rapidement sur le deuxième thème, syndicat et environnement, et je pense que là, on a, si on reprend mon deuxième point, la question climatique, ce n'est pas les multinationales les États, ou c'est certainement pas uniquement eux, c'est comment est-ce qu'on organise une transition, et comment on organise des enjeux temporels qui sont difficiles à organiser, de gens qui perdent leur emploi à un endroit donné et qui, à terme, pourraient en avoir un autre endroit. C'est-à-dire, quels sont les emplois du futur, quels sont les types de localisation. L'exemple le plus clair, c'est l'enjeu du charbon polonais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 100 000 mineurs. Qu'est-ce qu'on fait de 100 000 mineurs qui sont dans une région spécifique? Ça, c'est la question qui se pose. Et ça se passe pas simplement en Pologne, comme on a vu dans les journaux, mais aussi en République tchèque et en partie en Allemagne. Il y a beaucoup moins de travail. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit cette responsabilité de changer de modèle dans lequel les temporalités vont être très, très différents? Donc là, je pense, et je termine là-dessus, qu'il serait sans doute nécessaire de réfléchir ici. Si on prend, si on accepte que les changements auxquels on va devoir faire face pour réduire les émissions est bien plus radical que simplement quelques conférences, quelques multinationales et quelques acteurs qui changent, que ça va concerner tout le monde, de réfléchir sur une sorte de droit de la transition. Comment est-ce qu'on organise juridiquement une transition radicale? Et sur ça, je pense que j'ai épuisé mon quota de minutes. Merci.